bonsoir et déjà merci à tous d'être venus. Nous allons vous présenter donc notre recueil, La Nuit des Errants, et nous allons commencer par écouter Jean-Michel Devesa, notre professeur. Ça a été mon professeur, mais maintenant c'est le gérant de mon atelier d'écriture, grosso modo.
Le gérant.
Le boss. Qui va nous expliquer de quoi il en retourne.
Bien, mesdames et messieurs, merci d'être si nombreux ce soir à la Galerie Mollard pour la présentation du travail de l'atelier d'écriture 2012-2013 de l'Université Michel de Montaigne, Bordeaux 3. Je veux tout d'abord, ce n'est pas rhétorique, c'est totalement sincère, remercier Denis Mollat et toute son équipe, Emmanuel Robillard, Corinne Krabos, David Vincent, Sébastien, Léni, toute l'équipe qui nous permet de travailler autour de la littérature et de défendre la littérature en prise directe avec l'université, avec les étudiants. La librairie Mollat nous soutient avec enthousiasme et il faut vraiment le dire, le répéter et la remercier. Alors, mesdames et messieurs, vous n'êtes pas venus m'écouter ni m'entendre. Je vais juste, pendant 2-3 minutes, vous dire ce que nous faisons au sein de l'atelier et dans quel esprit je travaille avec les étudiants volontaires qui choisissent, en troisième année de lettres modernes, ou de lettres classiques ou d'occitan d'ailleurs, qui choisissent de participer à cet atelier d'écriture. Je ne suis pas tombé enfant dans la littérature, mais j'ai choisi très jeune d'entamer des études littéraires et d'en faire mon métier, d'être un passeur, de communiquer à des gens plus jeunes ou de mon âge ma passion des livres, parce que je considère que un livre, une œuvre d'art, permet tout simplement de mieux vivre dans la traversée de l'existence. Il se trouve que souvent, nous nous lamentons, tous, à commencer par mes collègues et moi-même, nous nous lamentons quant à la difficulté d'enseigner la littérature aujourd'hui, désormais. En ce qui me concerne, je prends des colères, mais je considère que défendre la littérature exige d'être de son temps. Et être de son temps, c'est connaître, non pas parfaitement, mais connaître à peu près les usages, les pratiques, les habitudes, les passions, les détestations des jeunes que l'on enseigne. Si l'on s'enferme dans une tour d'ivoire, si je passe mon temps à feuilleter mes exemplaires de la Pléiade, sans avoir la moindre idée des passions et des détestations de mes étudiants, eh bien, il y a de fortes chances pour que je ne sois jamais entendu d'eux ou très peu. Donc je considère que la défense de la littérature, la défense de notre langue, ne peut pas être conservatrice. Il faut tenir compte des aspirations, de l'ennui aussi, qu'éprouvent les étudiants dans nos classes. Non pas pour aller dans leur sens, mais tout simplement pour essayer de leur faire comprendre qu'un livre, ça aide à vivre et ça peut aider à vivre. À partir de là, je suis de celles et de ceux, il y en a un certain nombre en France, minoritaires, mais il y en a, qui considèrent que la défense de la littérature ne passe pas par une défense disciplinaire de son siècle, de sa spécialité, etc. Mais que, par exemple, proposer ce que les anglo-saxons appellent la creative writing, l'écriture de création, eh bien, c'est peut-être une voie, nous n'avons aucune garantie, aucune assurance en la matière, mais peut-être une voie pour permettre aux femmes et aux hommes dont nous avons la charge à l'université, de ne pas, de ne pas baisser les bras et de ne pas devenir de jeunes collègues qui, dans le secondaire, vont s'ennuyer avec le casque lourd et le gilet pare-balles pour essayer de transmettre les deux ou trois choses qu'ils auront apprises sur nos bancs et dans nos amphithéâtres. L'idée est un petit peu la suivante, c'est de dire que l'histoire littéraire, c'est bien, c'est indispensable. L'étude stylistique, narratologique, psychanalytique des textes, c'est bien et c'est indispensable. Mais c'est peut-être astucieux de faire en sorte que les étudiants soient en situation de se poser un certain nombre de questions. Je prends un exemple tout bête. Enseigner la concordance des temps et la valeur, par exemple, du présent dans la narration par rapport au temps du passé, je peux le faire en une demi-heure. Je leur casse les pieds avec cela. Maintenant, les mettre en situation d'écrire une nouvelle et d'écrire une nouvelle où ils vont devoir se poser des questions toutes bêtes. Ils écrivent pour des inconnus, ils n'écrivent pas seulement pour leurs amis, leurs parents. Un lecteur, c'est par définition un inconnu. Ils vont se poser la question de dire ce récit, est-ce qu'il passe, est-ce qu'il tient? Et donc, le cours qu'ils auraient vécu et supporté dans l'ennui le plus total, eh bien, ils vont l'expérimenter. Et du coup, on s'aperçoit, au fil des mois et au fil des années, qu'on peut leur demander beaucoup. Et j'ai le sentiment que souvent, les étudiants de l'atelier d'écriture, je ne dis pas toujours, parce que je serais présomptueux, mais souvent, eh bien, ils donnent plus, ils travaillent plus, ils sont présents beaucoup plus, plus aisément, plus facilement, avec une certaine joie, que dans les cours normaux, et y compris mes cours. Voilà. Donc, l'atelier d'écriture, c'est une façon, peut-être, contemporaine, non pas d'animer l'université, mais de défendre l'écriture, de défendre la littérature, en partant de ce que les étudiants ont envie de faire. Et par exemple, je vais m'arrêter là dans 15 secondes, je pense que beaucoup de jeunes, de moins jeunes aussi, veulent s'exprimer et considèrent que la littérature est un moyen d'expression. La littérature est certes un moyen d'expression. Moi, j'essaie de leur faire comprendre que si la littérature est seulement un moyen d'expression, ils prennent le risque d'une petite littérature. La grande littérature, c'est un travail sur la forme. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'exprimer ses sentiments, sa joie, sa peine, sa douleur, ses chagrins d'amour, mais l'on travaille la forme. Et plutôt que d'asséner ce qui pour moi est une vérité, eh bien, je fais en sorte de leur faire découvrir la chose. Voilà. Une dernière chose, c'est que les ateliers d'écriture, il y en a beaucoup dans la société civile, dans les prisons, dans les asiles, etc. C'est un atelier d'écriture qui s'adresse à de jeunes adultes qui ont un niveau licence. Ce sont de jeunes intellectuels. Donc, de mon point de vue, il convient de mettre les membres de l'atelier d'écriture de Michel Montaigne en situation d'être auteurs. Et c'est le sens de la soirée. Il s'agit pour eux non seulement d'écrire, de se critiquer, de se lire, d'échanger autour de leur production, mais d'avoir immédiatement des lecteurs. Donc le moyen, c'est le blog de l'atelier, très modeste, mais c'est un moyen, c'est une fenêtre. Pendant toute l'année, les textes sont mis en ligne. Et puis, une fois par an, il y a la rencontre à la Galerie Mola. L'an dernier, autour d'une revue objet qui a été réalisée merveilleusement par Anne-Périne Coué et Guillaume Delamarche, qui devraient arriver normalement. Et cette année, nous avons proposé un recueil de nouvelles. Cette opération a été réalisée grâce aux éditions Mon Plaisir. Là encore, nous avons travaillé avec Anne-Périne Coué et les étudiants de son atelier. C'était aussi une façon de décloisonner. Il n'y a pas de raison que les étudiants et les professeurs du département des arts ne travaillent pas et ne rencontrent pas les étudiants et les professeurs du département de français. Et donc, le recueil de nouvelles que nous avons réalisé, que les étudiants ont réalisé, a eu comme déclencheur le tableau de Hopper, Nighthawks, et Anne-Périne Coué a fait travailler ses propres étudiants, non pas sur ce tableau, mais sur différents tableaux de Edvard Hopper. L'accrochage qui a été réalisé dans la galerie montre des réalisations, je le dis, non pas parce que j'aime manier l'hyperbole, c'est pas du tout le cas, mais je pense que ces réalisations sont vraiment très intéressantes. Certaines sont absolument superbes, toutes sont d'une grande qualité, et c'est le résultat à la fois du travail de ma jeune collègue Anne-Périne Coué et puis de cette volonté de croiser les choses entre départements. Voilà, j'ai été beaucoup plus long que je le pensais, mais je voulais indiquer les choses. Maintenant, c'est la soirée des étudiants de l'atelier d'écriture, donc je m'efface, et c'est Vincent Perrier qui va distribuer la parole. Vous allez entendre un certain nombre d'étudiants lire des nouvelles, et vous aurez la parole, la possibilité de réagir, de poser des questions, de dire si vous aimez ou si vous aimez moins. Voilà.
Bon, bah, on va commencer par vous présenter le recueil par deux lectures d'auteurs qui vont se lire l'un l'autre. Marlène Alameda et Quentin Batz. Donc on va commencer par Marlène qui va lire Quentin Batz tout de suite.
Le besoin et la peur. Lou travaille encore, il travaille dur, il nettoie sans cesse, remplit les tasses de café brûlant, dispose sur le comptoir les serviettes et les bouteilles de sirop, le cacao et la cannelle en poudre. Il ne finira qu'au matin quand la vieille viendra prendre sa place. Il dormira quelques heures puis ira aider son oncle à la station. Après tout, il lui doit sa place au diner. Il a l'air épuisé en fait, ce sont ses yeux qui le disent. Au-delà de ses cernes, son visage offrant à la clientèle, pour le reste, une mine fière et un sourire franc, ou qui en a tout l'air, sans doute pour mieux cacher aux autres les tréfonds de son âme. Qu'est-ce que j'en sais, moi, des tréfonds de son âme ? Un regard, parfois un geste, nous échangeons bien peu si nous nous croisons quelquefois, depuis ces après-midi de notre enfance que nous passions à jouer, parfois à voler des confiseries, puis des cigarettes, au drugstore d'Ellie Smithson, le père de William, le seul d'entre nous qui soit parti étudier. En Angleterre, il me semble. Il doit être ingénieur maintenant. Sûrement. Nous, nous n'avions pas de père, nous n'en avions plus. Parti la même année, le mien emporté par la maladie, le sien fuyant vers l'Europe afin d'échapper à ses créanciers. Le sien non plus, il ne le regrettait pas tellement. La maladie. Les pires sont les longues, celles qui vous épuisent, amenuisent lentement vos forces, votre énergie, celles qui vous affaiblissent jusqu'à s'emparer de votre raison et qui laissent votre famille désolée, qui, se refusant à vous laisser partir, finit par vous souhaiter, comme à contre-cœur, et pourtant de tout son amour et avec toute son affection, à vous souhaiter de laisser, ici, votre enveloppe et libérer votre âme, que vous reposiez enfin paisiblement. Mon père, lui, était parti très vite. Ma mère feignait parfois d'être en affectée, les premiers temps, mais je pus rapidement observer qu'elle en était plutôt soulagée. Je l'étais aussi. J'ai trouvé une place à la centrale, il y en avait encore. Willy est parti et Lou et moi nous sommes disputés peu de temps après. Je ne sais pas trop pourquoi, pour une histoire de fille ou d'argent. Quoi qu'il en soit, ni lui ni moi n'avons jamais cru bon de nous adresser la parole à nouveau. Peut-être que notre amitié pour Willy, qui était un garçon aussi brillant qu'aimable en tout point, était en fait le seul fil qui nous maintenait liés. Et peut-être encore son départ avait-il été la cause réelle de la fin de notre amitié. C'était aussi le début des responsabilités. Des responsabilités, cela faisait déjà un moment que j'en avais quelques-unes, envers ma sœur, envers mère bien sûr, et pour notre confort, j'ajoutais quelques sous au maigre salaire que lui rapportaient ses ménages. Elles s'étaient seulement multipliées, les responsabilités. J'étais en charge du foyer, et si je n'avais passé mes heures devant l'établi, qui sait si nous aurions pu garder l'appartement. Avec le New Deal, j'ai obtenu un crédit que je pensais avoir les moyens de rembourser. Plus de responsabilités, des responsabilités plus lourdes. Derrière la vitre du diner, trois oiseaux de nuit, des oiseaux de passage, sauf la rouquine peut-être, il me semble bien l'avoir déjà vu, et à l'autre bout du comptoir, près de l'entrée, le vieux Simons, le nez dans son journal. Il reste là presque toutes les nuits, à somnoler, et part à l'aube, après s'être enfilé de bonnes tasses de café brûlant. Quand le patron passe, ils échangent toujours quelques mots, il lève alors la tête dans un sursaut, la secoue rapidement, s'ensuit un court échange, puis il replonge systématiquement dans ses feuilles. Une fin de chandelle brûlée sur la petite table de la cuisine et projetait un éclairage terne sur les murs de la pièce exiguë, mais cela fait déjà un moment qu'elle s'est éteinte. La rue est vide, pas un son n'en échappe, les cris des enfants, le vrombissement des moteurs, les femmes qui hurlent, les hommes qui jurent, tout cela s'est évaporé, petit à petit depuis la tombée du soir, et n'a laissé là qu'un trottoir désolé. Les heures ont passé et la rue est toujours aussi triste, une porte s'est claquée quelque part, un peu plus loin. Je n'en ai capté qu'un bruit sourd, mais tout à fait identifiable. Il est sacrément tard ou drôlement tôt. J'ai dû perdre la notion du temps. Car, il faut bien l'admettre, à une heure pareille, personne ne regarde plus sa montre. Peut-être après tout dans un geste d'usage, afin d'insinuer là, où la parole aurait été inconvenante, que le devoir, ou certainement quoi que ce soit d'autre, vous appelle ailleurs. Alors, vous l'ouvririez et la fixeriez vaguement, mais ni plus ni moins que moi. À cet instant précis, vous ne seriez capable de donner l'heure exacte. Lou vient de remplir la tasse d'un homme entre deux âges, chapeau et cravate. Celui-ci sort de sa veste une flasque et un peu de son contenu vient s'ajouter au breuvage. Certains ont leurs habitudes, ils ne sucrent pas. Certains viennent noyer leur chagrin. Lui, c'est sûr, il est de cela, un emploi qui bat de l'aile et il pourra bientôt se débarrasser de sa cravate. Un prêt sur les bras, dont il ne saurait se défaire, il partira, ou il restera ici, remplira sa flasque de mauvais alcool, et peut-être portera-t-il encore son vieux chapeau, maintenant tout à fait élimé. Je crois qu'il reste à attendre quelque chose, rien probablement, juste un déclic, une poussée. Sans doute, fraîchement licencié, ne trouve-t-il pas les mots pour l'annoncer à sa femme, à leurs enfants, sa famille qui devra pâtir de ses mauvais placements. Peut-être qu'il s'apprête à tout quitter, à les abandonner peut-être, Lou, sans le savoir, est-il ici confronté à son propre père, assistant à l'instant même où la décision d'en faire un orphelin avait été prise, un peu plus de 10 ans auparavant. Peut-être que cet homme, à la suite de sa longue réflexion, choisira-t-il lui aussi de laisser son fils à la charge d'un oncle un peu moins misérable, un peu moins lâche. Dehors, le même silence. En face, la femme rousse s'est tournée, et j'ai pu voir son profil, deviner son visage. C'est une belle femme, la peau claire et les cheveux rouges, une peinture. Je suppose qu'elle me rappelle une peinture. Un portrait, peut-être même un paysage, quelque chose d'agréable à l'œil. Elle s'est tournée vers lui et on dirait bien qu'ils se parlent. Lui, cet homme à sa droite, il est arrivé, un peu après elle et a pris place à ses côtés. De quoi peuvent-ils bien parler ? Je n'en sais rien, mais je vois bien qu'ils se rapprochent, chacun tendant l'oreille lorsque l'autre prend la parole. Lou doit avoir la fâcheuse tendance de monter un peu trop le volume du transistor. Je le sais fin connaisseur et véritable amateur de jazz, il se serait même fait un nom, me suis-je laissé dire, dans certains dancing des quartiers sud. Je sais aussi que parfois, quand les clients ne lui prêtent pas attention, il enchaîne discrètement quelques pas de danse. Je me souviens avoir remarqué, une fois, le vieux Simons qui, l'ayant certainement aperçu à l'œuvre, tentait de cacher dans sa feuille de chou, qui tressautait au bout de ses bras maigres, son fou rire à coup sûr à l'origine de ses convulsions. Qu'il danse ou non, Lou, en présence de musique, semble bien incapable de réfréner sa passion, et son corps tout entier traduit son goût du rythme, sa tête balance, ses épaules décrivent des vagues. Je pourrais presque, juste en le regardant, deviner à son rythme la chanson diffusée. Il se tient cafetière en main, prêt à remplir son rôle, droit, presque immobile. Pas de musique, pas de jazz. Tout à l'heure encore, je ressentais ce groove qui parcourait son corps, mais ce qu'il entend maintenant ne le fait pas vibrer. La radio doit probablement scander, encore et encore, les mêmes slogans, peut-être un feuilleton pour mieux effacer l'angoisse des nouvelles fraîches, un entracte. Comme si la vie nous en laissait des entractes. Les nouvelles, l'Europe, le Pacifique, ah, ils nous font voyager, les gars. Livrés à eux-mêmes, tous morts dans leurs grosses boîtes d'acier flottant. Les gars, d'autres gars, embarqués dans les cuirassés, les sous-marins, prêts à être livrés au même sort funèbre. Prêts ? Non. Certainement, ne le sommes-nous jamais ? Les gars. Ah, on l'écoutera, notre président, sur ces mêmes ondes, déclamant ses belles paroles, ses mensonges pieux qui ne le sont même pas, et ce dont ces hommes-là gardent jalousement le secret. Ah, quant à toi, ta parole, tu en fais bon usage. Ah, brave Franklin, libéré du besoin et de la peur. Libéré du besoin et de la peur ? Qui donc ? Pas nos braves soldats. Nous, non plus. Ni Lou, ni moi-même, ni ces trois oiseaux-là. Pas même ce bon vieux Simons. Le besoin et la peur, je ne vois rien d'autre ici, en bas, tout autour, et la rue vide. Et là-bas, au front, on peut entendre la peur, on peut presque la toucher. Elle emprunte la voix des ondes et les images. Un jour, nous achèterons une télévision. Déjà, je les vois, les images. Je les ai vues en décembre dernier. Les corps ensanglantés, les rescapés d'un temps qui se noient aussitôt. Comme ils se débattent. La peur. Qui donc peut s'en dire libéré ? Sûrement pas nos braves soldats. Ils sont partis, un jour, avec au ventre cette peur dont vous nous dites libre, et poussés par le besoin de nourrir leur famille, le besoin de vivre. Et pour cela, nous faudra-t-il mourir ? Ils ne sont pas partis pour changer l'histoire, ni pour y laisser une trace de leur passage, ni même pour venger leur perte ou s'abreuver du sang de l'ennemi. Ils sont partis mourir aux frais de la nation, ils n'ont pas répondu présent à l'appel du drapeau, mais à l'appel du marché, suivant les va-et-vient de l'offre et de la demande. Qui sait, pour quelques pièces, où diable vous partiriez ? Que pourrions-nous espérer ici ? Les docks sont pleins à craquer de cette vermine bon marché, les usines nous avalent et nous recrachent vidés, nus, et advienne que pourra, et j'y ai travaillé à l'usine, coupé, taillé, poncé, biseauté, je n'en sortais que pour amener à mer le fruit de mon labeur, duquel j'ôtais quelques sous, pour le casse-croûte, et de quoi me payer des cigarettes. Je ne bois pas, ou très peu. Cette bouteille, je viens de la sortir, un bourbon, elle était là, depuis longtemps maintenant, dans la penderie, derrière une vieille malle où j'ai entassé quelques souvenirs. Je l'avais oubliée là, à peine entamée, je me rappelle avoir surpris ma jeune sœur, avec des gamins du quartier, se passer le butin d'un quelconque larcin. Sans doute était-il sur le point de débuter les festivités d'une sorte de bacchanale, qui aurait conclu l'aventure de ce petit gang. Je me rappelle leur déception me voyant arriver trop tard pour espérer s'enfuir. Je me rappelle mon étonnement face à la qualité de l'alcool qu'ils s'étaient procuré, et aussi le coup de pied que le petit Sullivan, le gamin du boucher, avait cru bon de me lancer avant de prendre ses jambes à son cou. Son cou, je l'aurais bien tordu à cette occasion, et encore quelques fois, depuis ce jour de l'an passé. La petite a grandi, elle dort à côté avec mère. Il n'est pas habituel que je reste là, dans la cuisine. Il n'y a personne aux cuisines. Elles sont fermées la nuit, Lou prépare quelques sandwichs, seulement du froid et du vite fait. Peut-être qu'elle pleure, qu'elle se lèvera bientôt, et que sous ses pas, le sol viendra se dérober, les pommes offertes aux cieux, si peu prospères soit-il, elle s'écroulera. Mais je dois délirer, elle reste ainsi, assise au comptoir, elle sirote son café. Je le devine au léger mouvement de son épaule, qu'elle répète en boucle à intervalles réguliers, et à la course de Lou, qui ne permettrait pas que les tasses se vident, ou du moins qu'elle le reste. Et cet homme fait bien, beau costume. Peut-être rapporte-t-il des nouvelles du front, un ancien militaire qui serait revenu pour je ne sais quelle raison, ou quelqu'un de placé, quelqu'un de bien placé dans les hautes sphères. Et il saurait des choses et viendrait les lui dire, des nouvelles du front, peut-être n'est-il pas mort celui qu'elle chérissait tant. Et elle ira heureuse répandre la nouvelle. Ou peut-être, peut-être en a-t-elle fini de le pleurer, peut-être est-ce dans ses bras à lui qu'elle vient de se consoler. Et sortant du diner en s'emboîtant le pas, ou plus discrètement, à peine plus en fait, laisseront-ils un certain laps de temps entre leurs deux départs, puis ils se rejoindront dans une rue plus bas se prenant dans les bras, et ils s'enlaceront, ils pourront s'embrasser, et ses mains sur son dos et ses cheveux qui flottent inlassablement. Ce dos, je l'imagine nu, pâle, sensible au moindre souffle et à la moindre caresse. Et elle le serait sensible et ils s'en iraient tous deux, probablement chez lui. Mais ils ne sortent pas, ils ne se regardent même pas. Je crois qu'ils discutent, je ne sais pas de quoi. J'aimerais bien savoir. Et si seulement le temps ne m'était pas compté, je lui demanderais. Je lui demanderais pourquoi ce bel homme et sa mâchoire carrée, ses épaules en arrière, les pectoraux bondés, cet homme fier et fort, je le vois bien d'ici. Pourquoi donc est-il là plutôt que sur le front et plutôt qu'à la guerre et plutôt qu'à la mort ? Tu ne pars pas, l'ami, quand grand bien te fasse alors, mais quelle est ton excuse ? En as-tu seulement une ou alors es-tu de cette engeance qui, à l'abri du besoin, envoie ces braves soldats se débrouiller des peurs ? Maintenant, je peux regarder ma montre. Et d'un geste là et presque automatique, il joint à la pensée l'action. Il ouvre sa montre, sa notion du temps ne l'a finalement pas trompé. Il se lève, enfile son uniforme et écartant de sa jambe, d'un revers de la main, une petite touffe de poils gris. Il regarde le chat sur le rebord de la fenêtre. Je crois bien que celui-ci lui renvoie un regard complice. Il arrache à la table la bouteille laissée ouverte et la vide d'un trait. Puis après avoir lassé ses bottes, il lance, avant de refermer la porte avec un pincement au cœur, sur un ton presque jovial. « Hey, Orson, ou Plush, tell mum I'll be a good boy. »
Merci Marlène. Et maintenant la réponse. Quentin Batz qui va lire la nouvelle de Marlène.
Bonsoir. Bonsoir. La voyageuse. Elle n'a jamais su colorier sans dépasser au-delà des bords. Cela vient s'étaler. Excusez-moi. Elle n'a jamais su colorier sans dépasser au-delà des bords. Cela vient s'étaler sur ses ongles qu'elle a exceptionnellement coupés. Ils sont inégalement au ras de sa peau et ça l'énerve. Sa robe, d'un rouge aquarelle dans lequel on voudrait se glisser, ne s'accorde pas avec la peinture violette. Elle se sent comme un vieux serpent qui n'attrape plus rien. Je ne vois pas ce qu'elle tient entre ses mains. Petite pince martyrisée. L'hôtel ne ferme pas cette nuit. Il ne ferme jamais pour ces trois-là. Pensée pour des tripes, remue-ménage d'alcool à brûler. Les cuisines lui inspirent du dégoût, des langues de bœuf enterrées dans des assiettes tièdes. Narines frivoles, sa gorge se bloque. Elle fumerait bien un cigare à l'extérieur, car cet hôtel lui rappelle trop son ex-mari, ses enfants qui dorment, et le petit matin. Ce jeune poussin l'effraie, comme son cœur vide, graisse de canard sous. Le chapeau numéro 1 lui propose d'en prendre un chaque soir depuis 3 jours. Elle s'endort. Il parle de temps à autre, mais elle n'a pas envie d'améliorer le français de son voisin de comptoir. Son manège franco-russe l'agace. Le serveur a tout rasé ce matin. Le petit morceau de tissu qui tient par malice sur son crâne plaît à mon colibri. Tenir compagnie au cerf l'a toujours émoustillé, j'en suis sûr. Le bois de Phyllis, je me perds aussi. Le célèbre Bambi a retourné son chat. Ici, c'est l'éclipse, toutes les saisons à la fois, mais surtout le froid rouge de l'hiver qui accueille la liberté. Sa perception, du moins. Chaque rue se ressemble, dehors. Ce cirque d'acide m'emprisonne. J'observe le frottement inespéré du temps, ses désirs se fissurent. Un vrai labyrinthe pour une sentimentale en perte d'âme. La mer et le soleil me manquent. La ville se recroqueville sous le ciel noir qui nous nargue avec ses étoiles et parfois même ses aurores boréales. Comme la nuit tombe à l'heure du goûter, le whisky est la boisson officielle des bavards. L'homme que je vois de profil, les coudes bien avancés sur le comptoir, se repose. Les babillages du lover lui donnent chaud. Heureusement que la belle fleur reste dans son champ, le fond de teint collé comme de la cire. Il la verrait bien se remuer, les mains tenues à des fils, juste en dessous du plafond de cette pièce crémeuse. Les pommettes qui lui sourient. Ce faux couple le rend un peu jaloux. Il me paraît dangereux, se fondant avec la vitre tachée. Lui est marié, je le sais. Elle pense que ce sont des pigeons roucoulant dans l'eau morte, qu'ils gravitent derrière son ombre sur les nouveaux pavés. Les antennes sont gelées sous une neige de fin de semaine. Vous vivez seul à Paris ? Un autre qui scrute son périmètre, lui avalant les sucreries. Elle le démasque lentement. Il avait tout planifié lors du déménagement, jusqu'au rideau marron des fenêtres. La rouquine mouille dans sa culotte, des sueurs froides. Le soleil n'est toujours pas levé. Une serpillière dans un pan de mur, ce snack bar l'étouffe autant que la vie déserte de ce continent. Servi sur des plateaux d'argent, sa carrière se brise. Oui, elle était partie. De leur grotte familiale, chaleureuse et un peu trop confortable, mais la nuit, tous les chats sont gris. Moi, je suis blanc comme un linge. À la recherche de son épouse, il en envoya une autre. Je me remémore l'histoire depuis la fin du dîner. L'absence. Je la veux entière lorsque vous serez de retour. Cachez les armes blanches qu'elle collectionne. Elle ne sent plus rien. La fuite a scellé le reste. Numéro 1 en est à son 10e fait divers. Il veut juste ses mains, se dit-elle. Le chauve tombe en avant. Je suis allongé, le corps à découvert, le costard sur le dos. Le soleil tire vers moi, la mer s'étire, encore rose. Du savon dans la salive, la photo née de mon fidèle Polaroid, elle se présente à moi comme une carte postale. Si vous tenez à votre femme, prenez l'hélicoptère le plus proche pour Rovaniemi. Suivez mes indications idiotes, rendez-vous au sentiment. Ils servent d'excellentes crêpes au miel. Je me réveille, la gueule de bois des fêtes de fin d'année. Mon collègue est avachi comme une huître, sa bière coule encore sur ses mocassins. Une deuxième pensée pour elle, qui refuse que je m'endorme dans notre lit. Il est 11h. Le lit est froissé, mais vide. La tache dans le fond me ressemble. Je n'existe pas, et c'est là l'essentiel.
Merci, Quentin.
Juste pour aider, vous avez remarqué les deux textes de facture différentes. Le texte de Quentin Batz est un texte bâti peut-être sur un flot de conscience, tandis que celui de Marlène Alameda mobilise les associations, les métaphores. Ce n'est pas un texte surréaliste, mais au premier abord, on pourrait croire que c'est un texte surréaliste du fait de ce travail sur l'image.
Je vous écoute.
Oui, je voulais savoir comment se déroulait votre atelier.
Eh bien, en fait... C'est grosso modo, ça ressemble à un cours traditionnel, à l'exception qu'on se met déjà comme une table ronde, de manière à ce qu'on n'ait pas un prof qui parle à ses étudiants, les étudiants qui écoutent sans agir, sans réagir. C'est une manière de parler de littérature sans se prendre, sans être. Comment dire ? Sans être entravé par nos statuts d'étudiants et de professeurs. Et Pendant les séances, nous lisons des textes que nous avons écrits entre les séances. Et le soir, un thème nous est donné qui sera celui de notre prochaine nouvelle que nous étudierons, enfin que nous écrirons pour la prochaine séance et que nous étudierons à la dite séance. C'est comme ça que ça se passe.
Si Vincent me permet, donc opté pour ne pas demander aux membres de l'atelier d'écrire pendant la séance. Ils l'ont fait à deux reprises seulement, parce que nous avons simplement une séance de 1h30 et ils étaient 25, ce qui est énorme. Donc je préfère donner, dans mon jargon, une consigne. Ils écrivent quand ils veulent, ils m'envoient leurs textes, je les lis, je les commente, je leur retourne. Et à la séance suivante, l'idéal serait qu'ils puissent tous lire leurs textes et qu'on puisse en discuter, mais c'est matériellement impossible. Ils sont 25, on a 1h30. Donc les volontaires lisent. Et cette année, ça s'est très, très bien passé, sans tension au moment de la lecture, parce que, bon, enfin, vous savez sans doute qu'un atelier, ça gère beaucoup d'affects. Il y a parfois une dynamique de groupe et ça peut partir en affrontement. Cette année, pas du tout.
Y a-t-il d'autres questions ? Ah, apparemment, non. Donc, nous allons passer à la prochaine lecture. C'est Daphné. Est-ce qu'elle est là, Daphné ?
Oui, d'accord.
Yes. Installe-toi. Daphné va nous lire le texte de Julie.
Alors, opéra par Julie Sabourin. Il marche depuis un long moment à présent. Personne ne remarque ce monstre de la nuit. Personne ne le touche. Personne ne le sent. La grande avenue est peu fréquentée. Ceux qui la montent sont sur le trottoir de gauche, ceux qui la descendent sur le trottoir de droite. Mais ces rôdeurs entrent chez eux. Les bâtiments en pierre, assombris par la fumée et rongés par le carbone, l'encerclent et l'emprisonnent, tandis que l'air pollué brûle sa peau, condamnée à rester froide. Il est seul, parfois un peu trop. Son médecin lui demande de se forcer à sortir, à parler, à se mêler aux autres et au monde, comme il dit. Il respire cette noirceur urbaine qui tache ses poumons empoisonnés. Rien ne l'attire. Son ombre égarée traverse la cité grise sans éclat, avec comme une envie de prendre une seringue et de s'injecter de la couleur dans les veines. Depuis 2 mois, il évite tout geste brusque pour ne pas éveiller sa migraine. Il évite tout à présent. Il se dirige vers la seule lumière qui violente dignement son regard. Lui nettoie ses verres. Cet homme qui entre est son premier client ce soir. Il est 21h30, il est tôt. Le serveur ne dit rien et attend. Cela va faire presque un an qu'il travaille au Filiz. On se salue, on se toise, on se dit tout ce que la société hypocrite et bienséante nous force à dire, pour paraître poli et aimable. Puis le silence. Il lui sourit et lui sert son whisky sec, qu'il vient de commander. Eddie n'a pas l'habitude d'accueillir ce genre de client. Celui-ci paraît sale. Son chapeau vissé à son crâne ne masque pas le visage crevassé, prisonnier d'un rictus amer qui abîme sa bouche. Eddie reste au milieu du comptoir pour éviter le regard vide de l'autre. Lui ne sait pas ce qu'il fait là. Il ne songe pas à s'en aller non plus. Ils se sont rencontrés la veille seulement. Elle connaît son nom, lui ignore le sien. Esther s'appartient. Elle ne porte pas de bijoux. Agrippée au bras de son compagnon, elle vante sa liberté, son indépendance. Elle le prévient, le protège. Tu es sans importance. Il la regarde et comprend. Dans son anticonformisme prétendu, elle reste conventionnelle. Sans mari, sans enfant, sans contrainte, mais jamais sans compagnie. Esther n'aime pas être seule. Elle s'abandonne à la chaleur du tabac, ses lèvres épousant suavement les formes de la cigarette. Ses bras sont nus, ses cheveux détachés comme la veille. Elle ne sent pas la morsure du froid. Ils sont presque arrivés au Filiz. Ensemble, ils transcendent les lentes et obscures silhouettes d'autres imperceptibles, tous deux happés par leur psalmodie de la nuit précédente. La rue est sombre, le peu de lumière est aspiré par les trous noirs des fenêtres. Eddie lève la tête. Il est 22h15. Esther est enfin là de l'autre côté de la vitre, accompagnée. Elle affiche toujours sa conquête, le clou de sa collection, comme elle dit. Le rire bourdonnant de l'incendiaire masque chaque soir son cri étouffé. Esther ne l'entend pas. Esther ne le voit pas. Ils entrent, s'installent. L'homme ne se présente pas. Esther ne le présente pas non plus. Son ensemble complet veston, cravate et chapeau mou le rapproche des rapaces, toujours tirés à 4 épingles. L'argent qui déborde des poches. Elle porte sa robe rouge, un rouge criard qu'on n'oublie pas. Patient, il savoure ce bonheur languissant, domptant sa soif charnelle. Il est 22h30. Le serveur leur sert un martini blanc et un demi. Lui aussi ne cesse de contempler cet inconnu aphrodisiaque. Il plonge sa main gauche dans les profondeurs du comptoir et la pose sur la cuisse de son amante, vibrante. L'intimité de la femme devient à nouveau sienne. Il se rappelle les lèvres serrées, la peau laiteuse, le nœud mordant. Il lance son ultime jet et elle dévisse, mais ce soir elle reste impassible et sèche, lui impuissant. Il se tourne vers l'homme à sa droite. Il l'imagine résigné à tout au sein d'une famille dont toute la vie s'organise autour d'un unique sens, le travail. Il a dû réussir à s'échapper pour quelques heures sûrement des trous noirs. La peau de l'évadé ressemble à l'écorce d'un arbre mort. Esther n'aime pas être possédée plusieurs fois. Elle veut qu'il parte. Il est 23h15. Elle demande discrètement à Eddie d'intervenir comme à son habitude. Mais Eddie, sali par ses défilés nocturnes, est las de cette habitude. Il sert deux derniers verres au couple. Il est 23h20. Il est tard. Dans 10 minutes, il éteindra les lumières, montera les escaliers qui mènent à son appartement au-dessus du bar. Il prendra sa bouteille de scotch et dormira toute la journée du lendemain. Il n'attendra pas qu'on vienne le chercher. L'homme seul est aux premières loges. Il voit le couple surpris de s'assoupir, la main gauche de l'homme toujours invisible. Il règle le serveur et s'en va. Il se retourne une dernière fois vers la vitrine du Filiz. Il est sorti. Son médecin sera content.
Merci. Une nouvelle fois, j'ai demandé s'il y a des questions. Je vous écoute. Il peut y en avoir. Certains en ont mis, d'autres n'en ont pas mis. C'est un choix vraiment de l'auteur. Est-ce que ceux qui sont passés...
Si vous me permettez la consigne pour la réalisation de ces nouvelles en vue du recueil était la suivante. Le déclencheur, c'est le tableau Nighthawks. Il pouvait faire ce qu'il voulait, soit inventer une histoire à partir des personnages, soit restituer une ambiance, une atmosphère. Et en même temps, ma collègue que je citais tout à l'heure, Anne-Périne Coué, est arrivée. Elle est au fond de la salle. Elle a fait travailler ses étudiants. Nous nous sommes vus deux fois, si mes souvenirs sont bons. Les ateliers se sont croisés deux fois. Et donc, nous avons vu aussi les réalisations plastiques des étudiants d'Anne-Périne Coué. Donc ça a nourri tout cela. Pour ma part, je refusais d'être directif, de dire voilà le type de nouvelles que vous devez faire. Donc certaines nouvelles pratiquent le dialogue, d'autres non.
C'est une préférence de l'auteur.
Absolument.
Aussi simplement que ça.
Il faudrait demander à Julie pourquoi...
Absolument, mais même à tous les précédents d'ailleurs.
Voilà.
Tu veux...
Ben moi, c'était vraiment un choix. Je ne suis pas forcément à l'aise avec... Dans le micro. Je suis pas forcément à l'aise avec les dialogues, faire quelque chose en direct. Dans tous mes textes, en général, je préfère plus créer une ambiance, une atmosphère. Et puis, j'ai cherché plus à... Enfin, comme le tableau est assez immobile, qu'il n'y a pas forcément de contact, que ce soit au niveau des yeux ou... Au niveau du regard, il n'y avait pas forcément de contact entre les personnages, donc je me voyais pas retranscrire ça par la parole, en fait, remplacé par le dialogue, en fait. Voilà.
Très bien. Je pense qu'il y en a.
Non, alors là, je suis de temps en temps directif. Nous aurions pu, j'aurais très bien pu dire, écrivez un texte. Non. Non, c'était vraiment, on écrit une nouvelle. Si vous voulez, par exemple, au sein de l'atelier, il y a des membres de l'atelier qui écrivent plus facilement, on va dire, des textes à coloration poétique. Et c'était aussi une façon de les obliger à sortir de leur genre habituel. Voilà. Il me semblait, à tort ou à raison, que le format récit bref, nouvelle, pouvait donner une cohérence à l'ensemble avec comme point déclencheur le tableau de Hopper.
Y a-t-il d'autres questions ? Non. Ok, alors ensuite, ce sera Hector qui va lire un texte. Il est où ? Il est là. Salut Hector.
Ça va ?
Ça va. Hein.
Alors. Est-ce que je dis de qui je dis le texte ?
Oui, absolument. Ouais.
Alors, c'est une nouvelle qui s'appelle Martha, qui a été écrite par Florent Lespine, qui est tout au fond là-bas, mais je ne le vois pas d'ici.
Je ne le vois pas non plus.
Certains lisent la Bible jusqu'à ce que leurs yeux se ferment. D'autres s'endorment au rythme d'une respiration parallèle. Certains comptent les moutons. Je compte mes os. Par peur démunie, je laisse mon doigt glisser de côte en côte. Vraie, fausse, flottante, saillante. Un brusque dénivelé, les chaos thoraciques font place à la douceur d'une plaine abdominale. Je joins alors le pouce à l'index et tente par une légère torsion de pincer la peau. Sans succès. Je tente de nouveau, plus fort cette fois, et serre les dents. Cuisses, bras, joues, saisir la chair, prouver la chair, être. Je grille la 9e liquide de la soirée, étendu sur le lit, à contempler mon corps constellé d'échymoses. Je suis. Le flap-flap-flap monotone du ventilateur me détend. Une soirée parmi tant d'autres. Elle est partie, rien n'a changé. Insomniaque, l'enfer est surestimé. Le vrai châtiment, ce sont les limbes. Philadelphie, 4h17. Je n'ai jamais lu la Bible, mais j'ai connu une respiration parallèle, sur ce même lit, avant de comprendre que deux poisons ne font pas un remède. Entre deux bouffées, je pense à elle, Martha. Qu'es-tu devenue, toi, la reine des limbes, le dernier atout du Phillies? Une balle perdue au plus profond de la nuit, là où la balistique atteint ses limites, là où les questions resteront à jamais sans réponse. Je ferme les yeux et repasse dans ma tête le film de ces dernières semaines. La nuit est chaude, étouffante. En plein cauchemar, je me réveille, le front perlé de sueur, haletant dans la pénombre. Un cheval rouge entrait au galop dans mon bureau et saccageait la pièce de fond en comble avant de se cabrer devant moi, démesuré, pour piétiner mon visage. Je reprends lentement mes esprits. Une gicle d'eau froide, une chemise et quelques pas dans la rue me permettent d'évacuer les dernières toxines de ce violent fantasme. De retour dans ma chambre, je tire une chaise et m'assieds, jusqu'au petit matin. Depuis, je ne dors plus. J'ignore toujours comment, j'ignore toujours pourquoi, mais j'ai perdu cette nuit-là un des rares biens que je pensais inaliénable. Lent, profond, paradoxal, cela va faire deux semaines que j'ai quitté le cycle. Je traverse chaque soirée immobile entre les draps froissés, les orbites rivées aux nymphées amoisies du plafond. Faute de place, mes idées commencent à se phagocyter comme des rats pris dans un tonneau. Les pilules se multiplient sous ma langue, leurs effets secondaires aussi. Je perds rapidement l'appétit jusqu'à ne plus supporter la vue de ce qui hier me faisait saliver. La fatigue me taille au burin un nouveau visage, chaque jour moins familier, plus froid. Les angles aspérités se dessinent sous mes doigts à vitesse inquiétante. Peu à peu, je disparais. Cela fait maintenant 3 semaines que la nuit m'a pas porté conseil, si ce n'est celui de m'en remettre au silence et au bourbon. Éventuellement, mon arme de service, récupérée par l'intermédiaire de Batman après mon passage devant la commission vendredi dernier, reclassée pour inaptitude physique, enfoiré. Comme prévu, Batman frappe à ma porte le lundi suivant. Son paquet sous le bras, il opère un léger mouvement de recul en m'apercevant. Je réalise que je n'ai pas de chemise. Il incline légèrement la tête sur le côté, comme pour s'assurer par une nouvelle perspective de l'identité de son interlocuteur. Miller ? Conscient de son malaise, j'abrège l'échange et dégage doucement le colis en papier craft de son bras. Je t'en remercie. Tiré de sa torpeur, il pose soudain sur moi un regard sombre, autoritaire, un regard que je ne lui connais pas. Fais pas de conneries, Miller. Il tourne alors les talons et s'enfonce dans la cage d'escalier. Dos au mur, je déchire le papier et contemple mon marchand de sable personnel. Les choses pourraient s'arrêter ici. Je pourrais tomber dans ce couloir et m'endormir entre les motifs floraux de la tapisserie. Je cogne le mur, mais vais prendre une douche. Comme tous les soirs depuis mon passage devant la commission, j'échoue misérablement au comptoir du Phillies. Et comme tous les soirs, j'en sortirai persuadé que le combat Louis Schmeling était truqué et que si tout va mal, c'est la faute du cheval rouge. Mais elle me regarde, du coin de l'œil. Assise non loin de moi, je remarque enfin cette femme qui semble à court de signaux. Amusée, je tire sur ma Lucky et entame la conversation avec Davis, surpris de voir une des épaves de son bar lui adresser la parole. La mal inconnue feint l'indifférence avec la maladresse touchante de ces femmes restées trop longtemps trop seules, et pour qui l'art délicat de susciter le désir se bande souvent une mascarade instinctive. Tout en échangeant avec Davis par-dessus le comptoir, je l'observe à mon tour, absorbé dans l'inspection d'un bout de papier trouvé sous sa tasse. Je m'attarde sur ce visage pâle et osseux qui semble refléter mon propre mal. Seules les lèvres semblent avoir été d'un afflux sanguin convenable. Ces mêmes lèvres qui tout d'un coup s'animent, timidement d'abord, puis avec plus d'assurance. Offrez-moi un verre. C'est ainsi que je fais la connaissance de Martha. Elle en est à 22 jours, moi à 28. Nous couchons régulièrement ensemble après un ou deux verres au Phillies. Pour croire, pour oublier. Pour finir comme deux macabées, enlacés dans la lumière jaune de ce début d'automne. Les petites morts défilent dans mon appartement, nous harassant sans jamais nous satisfaire réellement. Martha, même épuisée, s'accroche encore à sa théorie, celle-là même qu'elle m'exposait le soir de notre dernière rencontre. Notre première rencontre, pardon. D'après elle, le seul moyen pour un insomniaque de trouver le sommeil serait d'aider un autre insomniaque à s'endormir. Considère-moi comme ton associé, Nelson. Je gagne, tu gagnes. Je perds, tu perds. Me murmurait-elle alors au creux de l'oreille. J'acceptais, fasciné par l'aplomb de cette âme virile. L'air est frais ce matin. Je peux t'emprunter une chemise ? Un léger sursaut et la lame rip en m'entaillant le menton. J'attrape une serviette pour éponger le filet de sang. Placard de droite. Je ferme la porte de la salle de bain et entame agacé un second round contre ma barbe. Tout en faisant mousser mon blaireau, je devine le grincement du placard, le bruit des tringles sans trop choquant, la main de Martha hésitante. Elle ne prendra ni la grise, ni la bleue à carreaux. Ça tardera quelques secondes sur ma vieille arrow rouge et finira sûrement en blanc. Tu trouves ? Je rince mon visage, puis retourne dans la chambre. Martha est partie. Au milieu du lit, une boîte à chaussures la remplaçait. Je m'approche et prie pour que son contenu n'ait pas bougé. À l'intérieur, un simple morceau de papier Kraft.
Merci Hector. En travaillant sur un travail déjà inspiré, on peut trouver les inspirations là-dedans. Et puis aussi parce que la plupart d'entre nous se sont bien renseignés sur Hopper avant d'écrire leur nouvelle, histoire d'avoir... de pas se méprendre sur le message que...
Il y a des thèmes assez récurrents chez Hopper, dans la solitude ou l'attente stérile presque.
Enfin, le rythme est excellent.
La nouvelle a été bien lue aussi.
Oui, Hector est notre, enfin à mon avis notre meilleur lecteur.
Merci.
Ben, merci Hector. Y a-t-il d'autres questions? Donc ensuite, nous allons faire lire Claire. Est-ce que Claire est là? Oui, elle est là, c'est vrai. Vous êtes toutes derrière moi. En fait. Très bien.
Eh bien, bonsoir. Donc, je vais vous lire le texte de Victor Payot, qui est juste au premier rang. Bloody Mary. Nous avons marché toute une partie de la nuit sans nous rendre compte de l'heure. Mes pieds me font atrocement souffrir. Ils sont trop grands, trop carrés pour ces escarpins à bout pointu. Personne ne soupçonne la largeur de mes pieds. Personne ne soupçonne à quel point mes pieds sont masculins. Pas même lui. C'est ici, me fait-il en s'arrêtant devant le Filiz, seul bar encore ouvert. Les rues sont désertes, sombres, comme dans un film d'Hitchcock. La lumière éblouissante pour mes, nos yeux fatigués. Ça me fait penser à Syphilis. Il entre le premier comme le veulent les conventions, mais lorsque j'entre à mon tour, je le dépasse et sens ses yeux me parcourir de haut en bas. Surtout en bas. Au revoir, courtoisie. Le garçon de café, un homme assis, nous. J'ai déjà l'impression de m'ennuyer, et pourtant il ne faut pas que je m'ennuie. Non, il ne faut pas. Un café, s'il vous plaît. J'en ai besoin. Deux. Non, un whisky pour moi avec un peu de glace. Il en a besoin. Le garçon de café ressemble à mon père. Je réglerai mon Oedipe plus tard. Je m'intéresse à Freud. Nos mains se frôlent. Il est si beau, si élégant, si... Ses doigts m'obsèdent. Je les imagine tenir un cigare, un revolver, une cravate, appuyés là où ça fait mal. Ce sont les doigts, les mains qui nous trahissent. On peut toujours fausser un regard, forcer un sourire, mais les mains parlent. Elles dévoilent l'âme. J'ai mis la rouge, celle qui me donne un air de Rita Hayworth. Je m'y sens bien, elle est facile. Je l'entends essayer de me séduire, je ne l'écoute pas. C'est trop facile, j'ai mis la rouge. Il s'arrête de parler un instant pour allumer une cigarette. Il m'intéresse. En le voyant fumer, je l'imagine parfaitement faire l'amour, et tout à coup, il ne m'intéresse plus. La cendre ne reste incandescente que l'espace de 2 secondes. Je voudrais être incandescente, rouge, brûlante, toute la nuit, toute la vie. Il prend ma main et nous partons. Au revoir, papa. C'est étrange comme tout est calme dehors. Alors je me retourne et regarde une dernière fois le Filiz, l'endroit idéal. J'ai toujours mal aux pieds, l'air tiède me détend cependant. Le temps semble être suspendu exactement comme dans un tableau ou comme dans un cauchemar. Il essaiera de courir mais restera cloué au sol. Il redevient chevalier à présent. Que lui arrive-t-il? Sa main dans mes cheveux se fait couleuvre, arrête, continue. Nous marchons à nouveau, longtemps. Me voilà assise sur le siège passager. Je m'attendais à la banquette arrière, tant pis. Tant mieux. Je n'aime pas la sensation du cuir, de ce cuir. C'est à la fois chaud et froid, il faudrait choisir. Son odeur me soulève le cœur, pourtant quand on y pense, c'est originellement de la peau, simplement de la peau. Qu'est-ce que ça sent mauvais? Sur la route, il est un peu plus bavard. Il parle plus que moi. Pourquoi? La nuit n'est pas si noire que ça. C'est un bleu très sombre qui tire sur le violet. On pourrait utiliser le terme indigo, mais je ne l'aime pas. C'est un bleu très sombre qui tire sur le violet. La route me berce et je m'ennuie moins que dans le bar. Je sais que sa mère s'appelle Maddy, moi c'est Marie. Bien sûr, je ne crois pas tout ce qu'il me dit. Je ne crois pas tout ce que l'on me dit en général. Attention, je ne dis pas que tout le monde ment. Je suis méfiante, c'est tout. Ça non plus, personne ne s'en doute. C'est parce que je ne suis pas physiquement méfiante. Je suis rousse dans une robe rouge. Lorsqu'il coupe enfin le moteur, je sors une fiole de vodka. D'où, je ne sais pas trop. Il veut être mon thérapeute, mon docteur. Il veut me délivrer de mes démons et s'ériger en sauveur. Il me le dit. D'abord mes jambes, puis mes mains, mes seins. Il persiste et signe. J'aimerais lui dire que ce n'est pas comme ça que l'on doit faire. Je me tais, il ne parle pas. Je pense qu'il a compris, oui, il a compris, mais c'est trop tard. Je m'ennuie. On dirait un rôti, son sexe. Non, il ne me paraît toujours pas intéressant. Ses doigts me déçoivent, ils sont froids. Je n'ai jusque-là pas pensé à examiner son regard. Il n'est pas froid. Ses yeux sont les deux, aigris et verts. Brillants, scintillants, mais pas transcendants. Ni transperçants, d'ailleurs. Non, rien ne me transperce chez lui. Je n'ai pas passé une si mauvaise nuit que ça. Il paraît qu'on l'a retrouvé mort. Il paraît qu'il lui manquait deux doigts. C'est ce que racontent les journaux. Moi, c'est Candy.
Merci. C'est au tour de Sophie Cusson de lire. Cussons, excuse-moi.
La robe de pourpre par Sean Lightburn. La beauté est la seule vengeance des femmes, Serge Gainsbourg. Le fer glisse mollement sur le satin vermillon tandis que l'obscurité s'engouffre dans le minuscule appartement. Entre deux volutes de vapeur, Sybil Hayes appuie sur l'interrupteur et ouvre l'unique fenêtre de son logement, avant de retourner lisser les derniers plis de sa plus jolie robe. Elle passe les fines bretelles dans les encoches d'un cintre en plastique et l'accroche au-dessus de sa porte de salle de bain. Elle met un peu d'eau à chauffer, puis s'en va d'un pas enjoué prendre sa douche. Tout en se délassant, Sybil organise mentalement sa soirée. Elle ira d'abord au n'importe quoi. Il s'y déroule une soirée étudiante qui promet d'être également festive et arrosée. Elle y fera assurément des rencontres, y nouera peut-être même quelques amitiés, fragiles mais délicieuses. De ces amitiés que l'alcool encourage et dont elle manque cruellement. Elle ira ensuite au duplex, partageant probablement un taxi avec ses nouveaux amis. Ils y resteront jusqu'à la fermeture, y iront tous se coucher dans les vapeurs insouciantes de leur jeunesse. Avec un peu de chance, l'un d'eux lui proposera de partager ce répit mérité avec lui. Satisfaite de son plan, Sybil termine de passer le rasoir sur ses jambes laiteuses, coupe l'eau et enfile un peignoir. Elle s'enduit de crème, lisse ses sourcils tout en les redessinant à la pince à épiler, avant de se maquiller. Elle étale délicatement le fond de teint, en commençant au milieu de ses joues, puis en massant de façon circulaire vers l'extérieur pour les affiner. Elle étire l'ombre à paupières, recourbe ses cils et les peint en noir. Elle aime son regard quand il est fumé de colle et de fard. Cela ne fait que mieux ressortir le vert de ses yeux. Elle étale ensuite la poudre, puis le rouge à lèvres. Elle se coiffe, enfin, crêpant ses cheveux roux jusqu'à ce qu'ils aient autant de volume que possible. Elle attrape le cintre et enfile sa robe, puis coule ses pieds dans des escarpins noirs et s'observe dans la psyché. Elle se trouve sophistiquée, comme toute jeune parisienne qui a pour ambition de refléter le temps d'une soirée, le modèle de la presse féminine, mais cela ne la vieillit pas pour autant. Sybil coupe le réchaud et se prépare un thé qu'elle boit à petite gorgée. Elle aurait bien aimé dîner, mais sa robe ne lui permet pas. Elle doit se contenter d'une infusion qui lui coupera l'appétit, sans pour autant gonfler son estomac. Elle appelle ensuite sa mère, discute de sa semaine, ment en disant qu'elle souhaite se coucher tôt ce soir, fatiguée qu'elle est de celle-ci. Une fois ses formalités consommées, elle fourre son recueil de nouvelles d'Hemingway dans son immense sac à main et dévale l'escalier qui descend de sa chambre de bonne au rez-de-chaussée. Elle y croise la concierge de son immeuble, une sexagénaire sévère qui ne manque pas de hausser un sourcil réprobateur tout en la regardant de haut en bas. Sybil éclate d'un rire insouciant dont la fraîcheur tranche nettement avec l'austérité de sa voisine et franchit la lourde porte d'entrée en sautillant. Elle s'engouffre dans le premier métro et lit quelques pages de la nouvelle qu'elle a abandonnée depuis quelques heures plus tôt. Elle descend à la station Louvre-Rivoli et termine son chemin à pied. Ses hauts talons claquent sur le goudron glacé. Et Sebon ne manque pas de remarquer le regard des passants, dont beaucoup se retournent sur son passage. Elle apprécie ce qu'elle prend le pli d'interpréter comme la validation tacite de ses choix vestimentaires et cosmétiques. Elle ne peut s'empêcher de sourire jusqu'à son arrivée au n'importe quoi, dont elle se dit qu'elle porte en effet bien son nom. Un peu intimidée par le groupe de jeunes hommes qui fument devant l'entrée, Sybil prend son courage à deux mains et leur sourit, avant de pénétrer dans le bar. Elle étouffe son angoisse de passer sa soirée seule au milieu de cette foule en tendant son sac à main au barman, et en lui demandant une coupe de champagne. Elle laisse les bulles diffuser en elle, la griser. L'espace est saturé de jeunes étudiants venus, comme elle, à la recherche d'une soirée aussi cathartique que nihiliste. Ils tanguent plus qu'ils ne dansent, se hurlent les uns aux autres, des paroles qui, à peine échappées de leur bouche, se dispersent et s'éventent à cause de la musique trop forte. Sybille ne veut pas rester seule. Alors, elle pianote un faux message sur son cellulaire pour se donner une contenance. Sourit à toutes les personnes qu'elle croise en espérant qu'on l'aborde. Entretient surtout une conversation passionnée avec son champagne. Elle attrape une cigarette dans son paquet, mais il laisse le briquet. Et sort du bar, faussement enjoué, mais déjà vraiment ivre, pour demander à l'un des garçons devant la porte s'il veut bien lui donner du feu. Ce dernier s'exécute et répond au large sourire de Sybille. Elle a enfin réussi à s'introduire. Elle s'autorise alors à poser des questions. Qui sont-ils? Comment ont-ils atterri ici? Où vont-ils après? Le jeune homme, qui semble un peu surpris, lui répond de façon évasive, ne cessant de chercher du regard ses amis. Elle se dit qu'elle a dû l'impressionner, en lui sautant dessus avec, de la sorte avec toutes ses questions, qu'il est sans doute un peu timide et décide pour se faire pardonner de lui offrir un verre. Le visage du jeune homme s'éclaire alors d'une lueur gourmande. Il accepte la proposition de Sebo. Enhardi de son succès, court commander au bar. Elle prend une bouteille de whisky et propose de la partager avec la petite bande. Elle vient de dilapider le budget qu'elle aurait dû ménager pour les 2 semaines à venir, mais le jeu en valait la chandelle, car elle a maintenant 4 nouveaux amis. Les heures s'égrènent en même temps que les verres, et l'idée d'appeler un taxi pour aller au duplex est adoptée à l'unanimité, alors que l'établissement où il se trouve commence à fermer. Celle-ci arrive au bout d'un quart d'heure, mais c'est alors que les garçons commencent à se considérer les uns les autres. Les regards fuyants. Entre 2 hoquets, Sybille s'entend dire qu'il n'y a que 4 places libres, alors qu'ils sont 5. Elle s'entend même suggérer d'en appeler un autre, et de les rejoindre plus tard. Ses louvoiements faussement polis lui font l'effet d'un coup de massue. Elle laisse le taxi filer, les larmes aux yeux. Elle n'ira pas au club. Elle n'a même plus de quoi payer l'entrée. Alors elle erre dans la rue de Rivoli, puis dans d'autres rues. Elle finit par tomber sur un café, un de ces cafés miteux ouverts toute la nuit, où il n'y a jamais personne, mais où les tarifs sont suffisamment abordables pour qu'elle puisse y boire un dernier verre avant de rentrer. Elle s'accoude au bar, en face d'un quinquagénaire mélancolique et attend, le regard vague, que le serveur lui apporte la vodka qu'elle a commandée. Un autre quinquagénaire est entré dans le café. Il s'assit à côté d'elle, si près qu'elle peut sentir son haleine aviner quand il respire. Il finit par lui poser une main sur la cuisse en lui proposant de lui offrir un verre. Sybille sursaute et marmonne une excuse, apeurée, avant de se ruer dans les toilettes. Sebo fait face à un miroir craquelé. Elle se rend compte alors, sous la lumière mordante du néon, elle tente d'arranger sa coiffure, mais s'aperçoit qu'elle a oublié de couvrir plusieurs mèches quand elle a refait sa teinture elle-même cet après-midi. Et les rides qu'elle pensait avoir comblées à grands coups de maquillage n'en ressortent que plus sur son visage osseux, au moins aussi craquelé que le miroir. Le col et le fard se sont estompés, laissant apparaître les cernes lourds et enflés. Les dents sont jaunes à cause du tabac, et la couture de sa robe a craqué. Quand elle avait 20 ans, cette robe semblait avoir été cousue sur elle. Maintenant qu'elle en a 50, elle peut bien s'affamer, se gaver de tisane, de pilules diurétiques ou drainantes. Elle ne pourra plus jamais la porter sans l'entendre gémir, se plaindre d'être aussi malmenée. Elle revoit en fondu l'espace d'un instant, sa jeunesse, dans le miroir, un sourire en coin. Son reflet est moqueur. Puis la jeunesse s'envole et il ne reste plus qu'un pantin au regard un peu fou, aux joues caves. Un pantin qui trouve que le temps passe drôlement vite. Sebo revient au comptoir et attrape dans son vieux sac à main ridé, au cuir craquelé, fatigué d'avoir trop mal servi, son bâton de rouge à lèvres. Elle se redessine en silence et rien, à cet instant, ne lui ferait plus plaisir qu'une immense fusillade. En arriverait dans ce café trop vide et trop calme, comme dans une nouvelle américaine où l'on tirerait à vue, sans sommation. Elle ne serait pas épargnée, mais s'éteindrait comme une dame, le rouge à lèvres à la main, comme si elle avait voulu se faire belle pour après. Car il y a bien une chose dont Sybille est certaine. Dans un instant, elle rompra ce silence insoutenable de sa voix, rocailleuse et tabagique passablement amochée. Elle acceptera le verre précédemment proposé, et sûrement bien plus. Elle aimerait qu'on l'en empêche, car elle sait que demain, elle regrette aussi assurément qu'elle recommencera.
Merci. Hein ? Non, je peux y aller. Bon, comme nous devons rendre la salle à 19h20, nous allons faire une dernière lecture et vous laisser l'occasion d'intervenir si vous le souhaitez. C'est donc au tour de Julie de lire le texte d'Hector.
La fatigue par Hector Walling.
Dos à la vitre, face au comptoir. Quel misérable quartier que suis-je venu faire ici? Mon train est dans 7 heures, j'aurais aussi bien fait de l'attendre à la gare. Ma dernière cigarette date de la veille et il faut que je me trouve un bar qui empeste le cigare. Cela dit, le café est étonnamment bon. Mon train est dans 6h45, je pense à mon fils. 17 ans depuis 4 ans maintenant. Bientôt, il faudra qu'il se trouve un travail. Pourquoi pas le même que ce blondinet, le serveur? J'espère qu'il s'y prendrait autrement. Voilà déjà 2 verres brisés depuis que je suis ici. Non, en fait, il n'a vraiment pas l'air à l'aise. Ses gestes sont maladroits et il ne pense même pas à nettoyer les éclaboussures sur le comptoir. C'est peut-être son premier jour ou sa première nuit, la fatigue sans doute. J'en baille rien que d'y penser. Mes yeux me brûlent et la lumière aveuglante de l'établissement n'arrange pas mon mal de crâne. Il vomit littéralement sa lumière dans la rue. Ce bar doit être un véritable phare pour les insomniaques. Mon Dieu, que ces tabourets sont inconfortables passé un certain temps. J'ai dû perdre 2 ou 3 centimètres à force de me tasser sur cette ridicule rondelle de bois. Je vais prendre un autre café. Mais qu'a-t-il à être si nerveux, à croire qu'il boit plus d'expresso que ses clients? J'ai vu un chien errant passer il y a 6 ou 7 minutes. Mon train est dans 6h10. L'homme au feutre gris en est à son 5e café et demi. Je dis « et demi » car sa tasse est encore à moitié pleine. Encore 2 ou 3 gorgées et cela fera 6. Il n'a pas l'air du coin, son costume est de marque et sans faux plis. Ça n'est sûrement pas un voyageur fatigué comme moi ou un résident du quartier. Pourquoi est-il venu s'enterrer ici? Peut-être que cette jolie femme rousse à ses côtés en est la raison. Maquillage chargé, robe de soirée, elle est tout aussi soignée que son compagnon. Une prostituée peut-être? Non. Elle n'a pas l'air du tout des genres de filles qui fréquenteraient ces trottoirs crasseux. Qui plus est, passer plusieurs heures à boire du café ne doit pas faire partie de leurs prestations. L'homme au costume italien a la mine sombre, presque concentrée, son regard est fixé droit devant lui, et seul le mouvement de son bras, lorsqu'il prend une gorgée de café, le distingue d'une statue. La jeune femme a l'air mal à l'aise, elle triture ses ongles ou joue avec l'anse de sa tasse. Elle la fait tourner lentement, elle trace à chaque fois entre 7 et 11 demi-cercles en produisant un petit bruit agaçant au possible. Non, en réalité elle n'est pas mal à l'aise, elle est impatiente. Ils semblent tous deux être apprêtés pour une occasion particulière. La soirée où ils se rendaient a-t-elle été annulée? Se serait-elle achevée sur une note négative? Ou peut-être attendent-ils un chauffeur qui ne vient pas? Leur élégance respective m'a fait d'abord penser à un couple, mais je n'ai pas vu le moindre geste d'affection, ni le moindre contact entre eux. Peut-être sont-ils parents ou collègues. Quoi de plus déprimant qu'une tasse de café vide, avec à peine quelques gouttes qui tentent vainement d'obscurcir le fond de la porcelaine? Je vais en prendre un autre. Mon train arrive dans 5h17. Notre garçon s'est éclipsé par la porte de service, probablement pour aller aux toilettes. La jeune femme s'est mise à regarder sévèrement son voisin, tout en faisant tracer à sa tasse vide 14 demi-cercles, particulièrement agaçants. Elle a bruyamment reposé avec un geste d'humeur devant l'immobilité de l'homme au feutre gris. Le blondinet est revenu 6 ou 7 minutes plus tard, avec une boîte en fer blanc, probablement pour y stocker les recettes de la journée. J'ai eu un mauvais pressentiment. Le café allait-il fermer? Pourtant, il n'est pas si tard. Les clients consomment. Et l'idée de retourner faire la sentinelle dans un hall de gare glacial ne me réjouit guère. Mais non. Le garçon a juste rangé l'argent dans la boîte, un peu gêné par le regard fixe de l'homme en costume, et l'a déposé sous le comptoir. Le temps me semble s'étirer comme un chat paresseux. Je vais commander mon 4e café. Je ne supporte plus ce voile arachnéen devant mes yeux, mes paupières semblent se calcifier et sans ce tabouret de fakir, je pourrais m'endormir sur le champ. L'odeur chaude et musquée caresse mes narines lorsque le serveur actionne la machine. Le flot noir se précipite dans la tasse et forme le long de ses parois des anneaux de mousse dorée. Le garçon pose le récipient devant moi et je reste ainsi une 15aine de minutes, mes pensées dérivant au rythme de mes yeux, voguant sur la surface du noir liquide. La vapeur qui s'en échappe se faufile dans mes narines et fait cligner mes yeux. Je me sens comme la Pythie dans son temple, inhalant ses supposées vapeurs hallucinogènes. Dieu que j'aime le café. Depuis combien de temps déjà? J'ai l'impression d'avoir toujours aimé ça. Enfant, la cuisine avait toujours cette odeur le matin. Je devais être adolescent lorsque j'ai bu ma première tasse. Il me semble que c'était dans un restaurant avec des amis. Pour je ne sais quelle raison, lorsque le serveur nous a proposé un café à la fin du repas, j'ai accepté machinalement. Je me suis retrouvée en tête-à-tête avec ce breuvage à la fois si familier et si mystérieux. J'ignorais même qu'il était possible d'y mettre du sucre. Je ne me souviens plus si j'ai apprécié dès la première gorgée, mais je sais qu'à partir de ce moment-là, je me suis mis à en boire de plus en plus souvent. C'est presque religieusement que je bois cette gorgée proustienne. Ma méditation m'a hélas privée de ma dégustation. Rien ne pouvait davantage gâcher ce moment qu'une généreuse lampée de café tiède. Je commande sèchement un cinquième café, irritée par ma propre bêtise, et je le bois si vite que je me brûle les lèvres. Dans l'immobilité de la pièce, je me rends soudain compte que mes gaffes deviennent un véritable spectacle. Le serveur, gêné, évite mon regard et la femme en rouge me toise d'un air plus méprisant qu'amusé. Seul l'homme en costume reste de marbre, les yeux fixes. Honteux, je rajuste mon chapeau, tel un homme protecteur, et bois prudemment le contenu de ma tasse. Cette agitation m'a au moins tirée de ma somnolence. Quelle heure est-il ? Mon train arrive dans 4h17. J'ai beau avoir l'impression de boire ma commande avec une infinie patience, le temps arrive à être plus lent que moi. Soucieux d'économiser le breuvage, j'avale chaque gorgée en imaginant le pendule d'une horloge, mais lorsque mon regard se pose sur ma montre, il se détourne, effrayé. L'aiguille semble plantée dans le cadran. Les dernières gorgées sont froides, je les avale d'un trait grimaçant. Au même instant, l'homme au costume repose sa tasse dans un bruit sec de porcelaine maltraitée. Il se lève, raide comme un soldat, et se dirige vers les toilettes. Tout le monde le suit du regard, la femme en robe rouge avec crainte, tandis que le serveur semble se décomposer. Cet homme est peut-être le patron. À la seconde où il quitte la pièce, je deviens le centre des regards. Compte-t-il à me fixer ? Je réalise soudain l'effet de ma présence ici. La femme impatiente, le serveur maladroit et tendu, et l'immobilité étrange de l'homme en costume. Quelle heure est-il ? Mon train est dans 3h52. Mon arrivée a dû interrompre quelque chose. Cela signifie qu'ils attendent depuis plus de 3 heures que je déguerpisse pour reprendre leurs affaires. Eh bien, qu'à cela ne tienne, la nuit est froide et le train encore loin. Je lève la main pour attirer l'attention du serveur. La femme me scrute d'un œil noir, tandis que le jeune homme livide prend ma commande. Il casse alors sa troisième tasse. Tremblant, il pousse les morceaux du pied et s'empresse d'actionner la cafetière sous mon regard perplexe. Visiblement, il n'a pas l'intention de les ramasser. Un bruit de chasse d'eau. Je règle la note en touillant distraitement mon sixième café. Dans quelques heures, le soleil se lèvera et je serai installée sur une confortable banquette dans un wagon chauffé. Le café y sera peut-être moins bon, mais je vais enfin rentrer chez moi. L'homme en costume sort des toilettes. Il referme lentement la porte couleur moutarde, se dirige vers le comptoir, mais au lieu de regagner sa place, il la contourne et vient se planter devant moi. « Que puis-je faire pour vous, monsieur ?» lui dis-je. « Monsieur, il serait temps que vous partiez, » me répond-il sèchement. « Je n'aime pas votre ton, monsieur. J'ignore quelles affaires vous occupent, mais je resterai ici aussi longtemps que l'on me servira du café. » À ces mots, il tourne la tête pour foudroyer le serveur du regard. Quant à moi, je détourne le mien et me concentre sur la tasse chaude entre mes mains. Du coin de l'œil, je vois l'homme écarter un pan de sa veste et l'instant d'après, un cylindre dur écrase ma poitrine. Le temps se fige si subitement que j'ai presque l'impression qu'il recule. Cet homme est en train de pointer un revolver sur moi, devant tout le monde. Je n'arrive pas à détacher mes yeux de l'arme au métal sombre. Sa forme est si menaçante. Je sens le froid du canon à travers ma chemise froissée. Quelle mécanique de précision ! Chaque pièce glisse dans une autre. La culasse recule, éjecte une douille fumante dans un claquement. La pomme de l'homme au costume absorbe le recul de la détonation et le canon crache sa bille de métal. Le mécanisme est aussi précis et fiable que celui d'une montre, exactement comme la mienne. C'est une vieille montre, mais elle a de la valeur. Mon père me l'avait offerte pour ma première communion. Cela doit faire plus de 34 ans maintenant, et bientôt 9 qui nous a quittés. Cela me fait penser à mon voyage. D'ailleurs, quelle heure est-il ? Mon train est dans 3h44. Je crois que je ne l'aurai pas.
Merci. Nous allons devoir conclure, et je laisse la parole à M. De Vézard.
Alors pour conclure, d'abord je remercie toute l'assistance si nombreuse d'avoir consacré un peu de temps à la littérature. Je me permettrai de dire, je pense que nous vous avons convaincus. Vous étiez en face de jeunes auteurs. Je ne peux que vous inviter à acquérir l'ouvrage. C'est aussi une façon de leur montrer que leur production a de la valeur, a de la qualité, pas simplement une qualité affective. Je remercie la librairie Mola et je me réjouis en notre nom à tous qu'il ne soit pas nécessaire d'être un auteur de best-seller pour remplir les salles autour de la littérature et de l'écriture. Merci. Bravo.